Écoutez,
ça s'est passé dans Fun for You
sur Fun Radio.
Et on accueille Martine Gerco au téléphone. Bonjour Martine.
Bonjour.
Bonsoir à tous.
Bonsoir Martine. Comment ça va?
Écoutez, je suis ravie d'être avec vous et puis j'espère qu'on va passer un moment sympa, enthousiaste et puis passionnant.
Bon, on l'espère aussi. Alors Martine, pour te présenter un peu à nos auditeurs, toi tu es une psy qui parle aux esprits, tu es spécialisée dans les états non ordinaires de conscience et leur potentiel de guérison. Tu es une psychologue, psychanalyste de formation. Première question, c'est en fait, on parlait tout à l'heure avec Pénélope des différentes approches de clinique. Comment toi t'approches tes patients finalement?
Donc la question, ce serait plutôt finalement, puisque tu as des formations un petit peu moins classiques, je dirais, que la formation comme moi j'en ai une par exemple, est-ce que ton approche du patient est différente?
Alors, ils viennent me voir parce que je suis d'abord psychanalyste et psychologue clinicienne, donc j'ai une assise théorico-clinique importante, et que je me suis formée aux États-Unis à d'autres approches plus dynamiques et plus moderne. Je crois qu'on ne peut plus pratiquer la psychanalyse comme on l'a pratiquée autrefois. Donc, lorsque j'ai commencé, j'avais une approche très classique, tout en n'étant pas classique de personnalité, mais j'avais besoin de cet ancrage théorique et clinique pour pouvoir ensuite aller explorer d'autres domaines. Et donc, j'ai eu la chance, bon, j'ai vécu en Californie pendant de très nombreuses années, et j'ai eu la chance de me former auprès d'esprits très novateurs, mais qui étaient tous des cliniciens.
C'est ça.
Par exemple, Stanislas Grof, auprès duquel je me suis formée en respiration nootropique et qui a été mon mentor, mon maître, entre guillemets, était psychiatre et psychanalyste en Tchécoslovaquie. Et il a été le premier à utiliser le LSD dans un cadre clinique. Et lorsque le LSD a été interdit d'usage, il a eu recours à la respiration holotropique, hein, pour permettre de rencontrer le même type d'expérience, mais sans la prise de la substance chimique.
Et peut-être tu nous expliquerais ce que c'est la respiration holotropique?
Oui, ça me
avant
passionne.
D'aller plus loin.
Tout à fait. Oui, c'est une approche. Bon, moi, j'ai été formée à de nombreuses approches, à l'hypnose, à l'EMDR, à la Gestalt, à la bioénergie. Et j'ai eu la chance de beaucoup apprendre à l'Institut Esalen en Californie, d'où sont parties toutes les nouvelles thérapies. Et je dois dire que c'est vraiment pour moi la respiration nootropique qui est l'approche, je dois dire, la plus puissante et la plus performante au niveau clinique, au niveau thérapeutique et puis aussi au niveau théorique. Alors la respiration nootropique, c'est une approche qui conjugue la respiration, une respiration motrice, hyperventilée, profonde, accélérée et accompagnée de musique évocatrice. Et la conjonction des musiques et du souffle permettent de rentrer dans un état d'expansion de conscience à l'intérieur duquel on a accès à tout un réservoir de mémoires, qui vont des mémoires psychologiques, hein, psychodynamiques, qui souvent trop douloureuses ont été oubliées, refoulées. Et on sait que ce qui fait souffrance, c'est ce sur quoi on n'arrive pas à mettre des mots émotés. Donc la respiration holotropique, ça permet d'ouvrir la mémoire et d'avoir accès à toutes ces couches qui ont été refoulées. Ça permet aussi d'avoir accès à des mémoires périnatales, donc qui ont trait à la naissance et puis à la gestation. Hein, on sait depuis les travaux d'Autoran, qui était un disciple de Freud, qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle « Le traumatisme de la naissance », que le bébé ne naît pas table rase, mais qu'il est détenteur justement de toute cette mémoire. Et lorsque tu es en état d'ouverture de conscience, à ce moment-là, tu as accès à des empreintes, à une mémoire cellulaire dont tu n'avais pas conscience. Et souvent, quand tu revis des expériences de naissance et que tu les compares au vécu de ta mère, parce que le bébé est en contact très étroit avec l'inconscient de la mère, c'est toujours juste. Donc, on est beaucoup plus que notre conscient, que notre corps. On est tellement riche. On a un tel potentiel à l'intérieur de nous. Et puis, on peut avoir accès aussi à des mémoires ancestrales, à des mémoires transgénérationnelles, à l'histoire de nos ancêtres, parce qu'on est aussi le tissu, hein, le maillon de toute une chaîne qui nous a précédés. Alors, holotropique, c'est intéressant le mot, parce qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, on me demande, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient du grec holos, holistique, l'entièreté, la globalité, et puis trépéine, tropique, trépéine qui se déplace vers. Donc, quand on est dans cet état holotropique, dans cet état de conscience élargie, on n'est plus un être unidimensionnel, hein, mais multidimensionnel. Et c'est ça la richesse de ce travail.
Mais donc, pour toi, quelque part, c'est encore plus profond que ce qu'on pourrait obtenir avec l'hypnose.
Ah oui, parce que l'hypnose, c'est une approche, parce que j'ai été formée par Scherter, qui a très longtemps, et en hypnose, on suggère. Moi, j'ai suivi beaucoup, justement, beaucoup d'hypnothérapeutes. Je ne suis jamais partie en transe. Mm-hmm. La transe, c'est pas quelque chose de gesticulant, c'est simplement passer dans un autre état de conscience. Or, qu'avec la respiration et la musique, moi j'adore la musique, hein, je suis musicienne aussi, la dimension, la conjonction du souffle et de la musique, ça me fait vraiment partir. Et ce que j'aime aussi, c'est que tu es maître de ton processus, c'est-à-dire que tu n'es pas influencé ou suggestionné par un tiers, c'est toi qui pars dans le souffle. Alors, évidemment, ce n'est pas une approche qui est conseillée à tout le monde, parce que quelqu'un qui présente une fragilité clinique, psychologique, ou bien qui a des problèmes cardiovasculaires, il est évident que je ne prendrai pas dans un groupe. Et avant de prendre quelqu'un dans un groupe, j'ai toujours un entretien avec lui.
C'est ça.
Pour savoir qu'il n'y a pas de contre-indication.
Et c'est ce qui a fait aussi que, du coup, tu t'es intéressée, parce que une de tes formations aussi, c'est le chamanisme. Et donc, c'est ça qui t'a amené au chamanisme ?
C'est ça, parce que lorsque Stan Grof nous enseignait, donc j'étais formée aux États-Unis, il a souvent invité Michael Harmer, qui a créé un institut qui s'appelle la FSS, Foundation for Shamanic Studies, aux États-Unis. Et Michael Harmer était un anthropologue qui enseignait à Berkeley, et qui a beaucoup investigué l'Amérique du Sud, notamment les territoires Jivaros et les populations Jivaros. Il a pris différentes substances et il a pu, à partir de son contact avec les Jivaros, à partir de son travail avec eux, et à travers les prises d'ayahuasca, reconstituer toute une cartographie des mondes chamaniques. Mm-hmm. C'est ça qui est extraordinaire. Et il s'est aperçu, parce qu'il a aussi ensuite étudié le chamanisme de différentes autres cultures, hein, le Népal, la Mongolie, et ce dont il s'est aperçu, c'est que les cartes des mondes chamaniques, telles qu'elles étaient décrites dans différentes cultures, en Mongolie, en Sibérie, au Népal, en Amazonie, étaient toutes les mêmes. Donc, il y a vraiment une tangibilité des autres mondes. Et c'est ça qui est tout à fait étonnant. Et lorsqu'on est en état de conscience élargie, je me souviens pendant ma formation, on voyage au son du tambour, hein, il n'y a pas de prise de substance, parce que les substances elles sont toujours illégales. Donc, on travaille, on voyage au son du tambour, c'est-à-dire la voix sèche, par rapport à la prise de substance qui est captée la voie humide. Et les mondes que l'on décrit, hein, ils nous disaient, on va l'explorer, un pays, mais dans l'autre réalité. Eh bien, ce que l'on voyait, ce que chacun voyait dans le groupe, c'était toujours la même chose.
C'est ça, il y a quelque chose de l'ordre d'une conscience collective, alors.
D'une conscience collective, tout à fait. Absolument, est-ce qu'on appelle aussi les champs quantiques, en fait.
Oui, oui.
On est vraiment enveloppé par autre chose, mais qui a une réalité.
Et qu'est-ce qui à un moment a fait que tu as été vers ça ? C'est une expérience personnelle ou
Oui, tout à fait. D'abord, quand j'étais petite, j'étais déjà très très interpellée. Je voulais être guérisseuse quand j'étais petite.
J'ai pas compris.
Et je voulais être guérisseuse quand j'étais petite.
Ok. Ah oui, donc, ça remonte à loin.
Oui, oui, et j'étais fascinée par tout ça, par la visible. Et j'avais un grand-père qui était un kabbaliste, qui était un érudit, un talmudiste, un kabbaliste, et dont l'empreinte a été extrêmement profonde. Et puis il est parti quand j'étais très, très jeune, mais il a laissé un ferment à l'intérieur de moi qui a fait que j'avais des rêves très très forts. J'avais des rêves où je passais à travers les murs, et j'avais l'impression, je me disais, qu'est-ce qui se passe? Et quand je passais à travers les murs, donc j'ai compris après que c'était des voyages hors du corps, en fait. Mais je les faisais sans rien provoquer, donc ça me faisait peur. Et puis, lorsque j'ai rencontré Stan Grof et Michael Arner, et que je leur ai parlé de ces expériences, ils m'ont dit, mais ce sont des expériences tout à fait extraordinaires. Ordinaire pour ceux qui ont l'habitude de lire,
oui, c'est ça.
Et qui ne sont pas du tout de l'ordre du pathologique. Et j'ai lu ensuite un livre qui m'a beaucoup enthousiasmée, c'était un livre d'un journaliste américain qui s'appelait Robert Monroe, et qui a écrit un livre qui s'appelle Voyageurs du corps, et c'était un journaliste scientifique très connu. Puis un jour, spontanément, il a vécu cette expérience. J'ai lu son livre. Et je me suis dit, mais c'est ce que je vivais quand j'étais petite. Donc, ça m'a rassurée par rapport à tout ça. Et donc, ce qui est extraordinaire aussi, c'est que lorsque moi, j'ai commencé à changer à l'intérieur de moi, les demandes de patients que je recevais étaient des demandes tout à fait différentes. C'est-à-dire, c'était plus des demandes classiques de psychanalyse, c'était des demandes autres. Et à l'époque, quand je me suis formée aux États-Unis, c'était il y a plus de 30 ans, il fallait être extrêmement prudente parce que je ne pouvais pas divulguer à mes confrères psy ce que je faisais. Donc, il a fallu être très prudente à l'époque. Parler de spiritualité, c'était extrêmement mal vu. Hein, c'était être assimilé à une secte.
Donc, oui, il fallait pas avoir l'air fou, en fait.
Ah, ben oui. Maintenant, ça s'est ouvert. Hein. Maintenant, ça s'ouvre beaucoup.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, c'est Fun for You sur Fun Radio.
Ce soir dans l'émission, on parle des états modifiés de conscience. Et pour en parler avec nous, il y a Martine Gerco qui est toujours au téléphone avec nous. Martine, ça va toujours ?
Super.
Alors, bien. Martine, une des raisons pour laquelle on te reçoit aujourd'hui, c'est aussi pour parler de ton livre. Tu en as déjà écrit plusieurs de livres, mais aujourd'hui, on va s'intéresser à ton livre « Une psy parle aux esprits » aux éditions Mama. Dans ce livre, tu parles de toi, de tes expériences, qu'elles soient violentes, douces ou heureuses. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre ?
J'écris depuis que je suis toute petite. Hein. Quand je disais que je voulais être guérisseuse, je voulais être journaliste aussi quand j'étais petite. J'ai toujours une passion pour l'écriture, pour les arts en général, donc je suis aussi une artiste. Et j'ai commencé à peindre à la faveur, après un choc dont je te parlais hier, après une agression. Ouais. J'ai écrit mon livre, j'ai pu avoir le temps après une seconde agression. Parce que je suis quelqu'un de très actif, avec une pratique importante, et je suis très dédiée à mon travail, puis je suis une vie personnelle. Et j'avais jamais eu le temps de vraiment terminer l'ouvrage, et là, c'était un temps de retraite, hein, le fait de pouvoir prendre plusieurs mois de congé sabbatique suite à cette agression.
Ouais.
Ça m'a permis de travailler et d'écrire, et d'accoucher hein, de tout ce que je renfermais, de tout ce que je portais.
Hein. Une forme de thérapie aussi, finalement.
Oui, ça a été une assaise. Et puis, il y a cet ouvrage qui est sorti de moi. Et le titre, c'est pas moi qui ai décidé du titre mentalement. Hein. J'ai pris mon tambour et puis j'ai demandé, parce que pratiquant le chamanisme, quel titre j'ai apporté ce livre. C'était une psychanalyste par les esprits. Et Tigrane, Adingue, mon éditeur, m'a dit maintenant, psychanalyse par les esprits, c'est un peu trop réducteur, on va dire psy. Alors j'ai hésité. Et puis, psy, qui est quand même un peu plus ouvert que psychanalyste. Alors on m'a dit, mais pourquoi par les esprits Parce qu'en fait, les esprits, une psy parle aux esprits, bon, je ne sais pas tourner les tables, je parle pour les défunts, mais c'est aux esprits qui sont ouverts, aux esprits qui sont en quête, aux esprits qui sont en quête de l'essentiel. Et puis, c'est aussi un clin d'œil au monde chamanique.
C'est l'esprit au sens large, en fait.
C'est l'esprit au sens large, c'est l'âme, en fait.
Oui,
c'est aussi parle à notre âme. Mais je dis toujours que la partie la plus sachante hein, de nous, c'est notre inconscient. Mais l'inconscient, c'est l'âme.
Tout à fait.
Un psychanalyste psouké, c'est l'âme. En grec, c'est le souffle aussi. Donc, c'est se mettre à l'écoute de notre âme. Et puis voilà comment c'est fait. Et le livre, ça a été un très très beau moment. Et c'est un livre qui pour moi est important parce que c'est comme aussi une forme de testament dans lequel je délivre des choses très 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 intimes de moi.
Ouais.
Mais bon, après un certain temps de pratique, je me suis autorisée et puis inspirée aussi par les Américains, les psy américains. ils se livrent beaucoup plus que les psys français. Et puis la théorie à l'état pur, je trouve ça très ennuyeux. Et ce qui aide le patient, c'est aussi l'expérience du psy. Il va falloir se rendre compte que le psy, c'est d'abord et avant tout un être humain qui lui-même est passé par des phases obscures dans sa vie, hein, par la nuit de l'âme. Et je dois dire que mes deux agressions, ça a été la nuit de l'âme pour moi. La première, c'est grâce à la première agression que j'ai commencé à peindre. Jamais je ne me serais autorisée. Ouais. Et puis c'est grâce à la seconde, même si j'ai failli laisser ma vie, que j'ai pu accoucher de ce livre. Et c'est ce que j'appelle la résilience, c'est-à-dire pouvoir donner à l'épreuve du sens pour ne pas se laisser effondrer, s'effondrer et devenir victime de ce que l'on subit.
Alors en plus de tes livres, tu m'en parlais hier, tu organises aussi des stages. Le prochain aura d'ailleurs lieu du 10 au 12 mars prochain. Tu y pratiques donc la respiration holotropique dont on parlait tout à l'heure, le chamanisme aussi. Comment ça se passe tes stages finalement ?
Alors ça dure du vendredi soir au dimanche soir. Donc vendredi soir on fait connaissance. Les gens viennent pour deux séances. Il y a deux expériences de respiration holotropique, hein, le samedi et le dimanche. Après chaque expérience qui dure 3 heures, il y a un moment d'intégration, de verbalisation autour de l'expérience, parce que c'est important de pouvoir mettre en mots MOTS, ce qui a été ouvert. On ouvre la boîte de Pandore, donc il y a du désordre émotionnel qui s'est créé, et c'est important aussi ensuite de ranger tout cela, hein, d'intégrer. Et il y a aussi, puisqu'on travaille le soir très tard, donc le soir, il y a des soirées danses. Pour moi, la danse, c'est très important, hein, c'est aussi... rentre en contact avec son corps, c'est pas une danse chorégraphiée, c'est vraiment laisser notre inconscient s'exprimer, hein, parce que la danse va permettre aussi l'ouverture pour le processus holotropique. Et puis il y a aussi, je me laisse aussi inspirer par ce qui se passe dans le groupe, hein, je travaille avec l'énergie du groupe. Et puis il y a aussi, je pratique aussi la peinture très souvent dans le groupe. On fait un atelier chamanique le samedi soir. Et donc, j'enseigne le voyage chamanique et j'apprends aux personnes comment rencontrer un animal totem, un animal de pouvoir. Parce que dans la tradition chamanique, chaque être humain a un animal totem, hein, qui lui donne du pouvoir. Donc, je leur apprends à rencontrer l'animal totem. Et une fois qu'ils ont rencontré cet animal totem, je leur donne du matériel pour peindre. Et c'est extraordinaire ce qui peut jaillir de chaque individu.
C'est vraiment tout un voyage, en fait.
Oui. Donc, c'est tout un voyage. C'est le voyage du héros, en fait. C'est un voyage intérieur, et puis c'est devenir le héros de sa propre vie. C'est rencontrer en nous tout un potentiel créatif qui n'est pas exploité parce qu'on a peur de... On a un surmoi, une conscience qui juge, hein, très, très fort. Et lorsqu'on est dans cet état d'ouverture de conscience, il n'y a plus cette censure, une libération qui se crée.
Il n'y a plus de barrière, en fait.
Non. Et ce qui est aussi génial dans ces groupes, et ça, je ne l'ai jamais vu dans d'autres groupes, c'est la fraternité et la bienveillance dont les gens font preuve les uns avec les autres. C'est extraordinaire.
Alors, le prochain stage, je le disais tout à l'heure, donc il aura lieu du 10 au 12 mars prochain. On retrouve toutes les infos, les réservations, ça se passe sur ton site internet, psyemergence.com, c'est bien ça ?
C'est ça, oui.
Alors, on rappelle aussi ton livre.
Site qui est d'ailleurs très complet.
Ah oui, c'est vrai ça. Une psy parle aux esprits, aux éditions Mama. N'hésitez pas à aller l'acheter, à le lire. Et on peut te retrouver aussi sur les réseaux sociaux. Martine, tu es dispo sur Insta, Facebook, j'ai vu tout à l'heure.
Oui, alors pour ceux qui sont intéressés et qui veulent s'initier au chamanisme, j'anime le samedi 25 mars. À côté d'Orgeval, à côté de Versailles, un séminaire uniquement. C'est une journée dédiée à l'animal totem, comment rencontrer son animal totem. Alors là, il n'y aura pas de respiration holotropique. C'est une initiation.
C'est une première approche.
Voilà, c'est une première approche. Il n'y aura pas de respiration holotropique.
Ça, moi, je ne l'ai pas vu sur ton site.
Non, je ne l'ai pas mis sur mon site, mais je l'ai mis sur Facebook et sur Instagram. Ok.
Voilà, si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à aller suivre Martine. Donc, Martine Gerco. Gerco, ça s'écrit G-E-R-C-A-U-L-T.
Alors, j'ai deux pages Facebook. Celle qui est la plus active, c'est celle qui s'appelle Cythara, C-Y-T-H-A-R-A.
Ok.
C'est d'union Martine Gerco.
Martine, merci beaucoup d'avoir été avec nous au téléphone. Merci d'avoir pris de ton temps pour venir nous parler finalement.
Oui, toutes ces explications qui sont très intéressantes et qui changent un peu de la pratique quotidienne. Même si moi je ne suis pas analytique, hein, je suis systémicienne, donc on est plus ouvert sur certaines choses.
Merci pour votre accueil, c'était vraiment très agréable d'échanger avec vous.
Du lundi au jeudi, 19h-20h.
C'est Fun for You avec Parthenamut sur Fun Radio.